Alors ce soir, voilà, on est heureux de moi je suis très très heureuse évidemment d'être là, de pouvoir partager un peu modestes expériences par rapport à l'oraison, par rapport à la vie de prière. Donc j'y invite chaleureusement toujours les femmes pendant les retraites femmes, mais on a 40 minutes hein, pour en parler. Et donc c'est bien que vous ayez fait ce choix de venir. Et dites-vous que le Seigneur va vous donner des mets délicieux. Hein, vous avez fait l'effort, vous, de venir. Hein, et vous inviter. Et je m'appuie pour vous dire ça sur Saint Jean de la Croix, qui disait « Tout chrétien est de race divine et a le droit de goûter les mets les plus délicieux. » Donc c'est un droit que vous avez en tant que chrétien de goûter à des mets délicieux. Alors c'est ce qu'on va vous proposer. Donc c'est un carême délicieux qu'on va vous faire vivre, comme disait tout à l'heure Arnaud. Voilà. Alors cette vie d'union à Dieu, c'est vrai. Pendant quelques, je sais pas, ces dernières, je sais pas quand, enfin il y a un siècle, on pensait que c'était vraiment réservé, que la vie mystique était réservée pour des gens qui étaient dans des couvents, derrière des clôtures. Et en fait. Vraiment, non. On sait aujourd'hui, hein, Concile Vatican II l'a bien rappelé, que la vie mystique, c'est-à-dire la vie d'union à Dieu, est faite, comme le disait tout à l'heure Arnaud, donc vraiment pour tout baptiser. Votre présence ici montre ce désir hein, d'approfondir cette vie d'union à Dieu. Et donc vous êtes dans un beau lieu pour cela. La prière va nous faire retrouver, si vous voulez, notre juste place vis-à-vis de Dieu. Je dirais notre dépendance. Le grand péché de l'homme, c'est l'indépendance, hein, depuis le jardin d'Éden, l'indépendance. Et bien là, on va retrouver petit à petit cette dépendance. Hein. Alors c'est sûr que, en même temps, c'est un magnifique chemin hein, qui va vous amener à un changement de propriétaire petit à petit. C'est vous qui allez lâcher les rênes de votre vie pour les donner à quelqu'un d'autre. Qui va vous mouvoir, qui va agir par vous. Donc c'est un peu déstabilisant, lâcher les rênes, s'abandonner, apprendre à se remettre sans cesse à cette présence, dans l'instant présent. C'est tout un chemin, voilà. Mais ce sera source de très grande joie, parce que nous avons été créés pour cela, et que notre finalité, hein, ce sera dans l'éternité, bien sûr, de vivre une complète immersion, dans cet amour de Dieu. On va être immergé dans l'amour de Dieu. Et donc, dès cette terre, grâce au baptême, il nous est permis de commencer cette immersion dans l'amour. Alors, dans ce domaine, je pense qu'on a quand même beaucoup besoin d'être accompagné. Parce qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peurs. C'est un lieu de combat. Un lieu de solitude où on se décourage vite. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut fréquenter les saints, il faut fréquenter ceux qui ont vécu une vie d'union à Dieu comme ça, jusqu'au bout. Alors, c'est par eux qu'on découvre un petit peu ce mystère de l'union à Dieu, de la prière, de l'oraison, de l'adoration. Et on va s'appuyer, bien sûr, sur ces grands maîtres que Arnaud nous présentera. On a déjà quand même trois docteurs de l'Église au Carmel. Alors on ne s'appuiera pas que sur eux, mais entre autres, hein, pourquoi pas d'abord sur eux aussi, puisqu'il y a donc Jean de la Croix, docteur de l'Église, Thérèse d'Avila et Thérèse de l'Enfant Jésus. Hein. Voilà, des docteurs. Hein. Donc ça veut dire que c'est une doctrine qui est vraiment faite pour tous, hein, pour toute l'Église et l'Église universelle et pour des générations et des générations. Donc on va leur demander de nous attirer là-haut pour nous donner envie de commencer l'ascension et d'en franchir de nouvelles étapes. Alors, je vais m'appuyer maintenant sur Jean-Paul II qui dit que nous avons besoin d'apprendre à prier. Parce que justement, on se décourage vite. Hein, on ne sait pas si ce qu'on fait, c'est bien, si on ne ferait pas mieux de faire autre chose, si ce ne serait pas plus efficace. Alors voilà ce qu'il nous dit très clairement. Il l'a dit donc au début du troisième millénaire. Il a fait une très belle lettre qui est un peu comme un testament pour ses petits-enfants que nous sommes. Et il disait ceci. « La priorité des priorités, l'urgence de tout apostolat est à l'intériorité et à la contemplation. C'est cette contemplation vécue dans l'oraison qui fera de nous des missionnaires, des évangélisateurs, pour le monde en manque d'amour. Et il dit, pour cette pédagogie de la sainteté, il faut un christianisme qui se distingue avant tout dans l'art de la prière. Vous voyez, il y a un art de la prière. Il est nécessaire d'apprendre à prier. La grande tradition mystique de l'Église en Orient comme en Occident peut exprimer beaucoup à ce sujet. Elle montre comment la prière peut progresser comme un véritable dialogue d'amour au point de rendre la personne humaine totalement possédée par le bien-aimé, vibrante au contact de l'esprit et filialement abandonnée dans le cœur du Père. Comment oublier ici, parmi tant de témoignages lumineux, la doctrine de Jean de la Croix et de Thérèse d'Avila. Oui, chers frères et sœurs, nos communautés chrétiennes doivent devenir d'authentiques écoles de prière où la rencontre avec le Christ ne s'exprime pas seulement en demande d'aide, ça on sait bien faire, hein. Petit Jésus, donne-moi ci, donne-moi ça, ça on sait bien réclamer, mais aussi en action de grâce, qui est déjà plus gratuit, en louange, en adoration, jusqu'à une vraie folie du cœur. Le pape qui nous demande, voyez, de se lâcher pour aller jusqu'à une vraie folie du cœur. Alors, quelles vont être les conséquences de la prière? Elle va nous permettre, disait tout à l'heure Arnaud, de connaître Dieu. Nous sommes faits, nous avons été créés pour connaître Dieu, pour vivre en connaturalité, pour vivre avec lui, participation, être participant complet de la vie divine. Elle est donc une science expérimentale de Dieu. Dans la prière, Dieu va nous communiquer sa vie intime et il va nous faire grandir en sainteté, hein, dans une transformation, certes lente et secrète, mais réelle, hein, de tout notre être. Il faut que nous fassions confiance. Si nous lui donnons du temps, lui, il va tout faire. C'est lui qui va agir, qui va tout faire et qui va nous transformer, hein, mais voilà, de manière lente et nous, secrète, parce que nous-mêmes, nous ne voyons pas nos changements, mais ceux qui sont à côté de nous le voient parfois. Donc on va lui devenir semblable. Voilà, donc il veut agir en nous, il veut nous donner un amour brûlant, pour que nous le transmettions au monde qui en a tant besoin. On est appelé à devenir une source, vous voyez, c'est toutes des images qu'on essaye de trouver, mais une source d'où s'écoule l'amour du Christ. Donc c'est au cœur de la prière que l'on trouvera la force vitale pour agir au nom du Christ, pour être son visage, hein, ses yeux, ses mains, sa présence auprès des hommes. Et vous pouvez vous dire aussi que votre prière aura une influence jusqu'à l'autre bout du monde. Chacun des moments de prière que nous prenons, ils élèvent le monde, ça élève le monde. Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On a les bras qui nous entendent de toutes les catastrophes qui se produisent de partout. Eh bien, un instant, un moment de prière, eh bien, vous faites du bien à l'autre bout du monde, à des êtres qui ont besoin de cela. Toute âme qui s'élève, élève le monde. Donc on est appelé vraiment à offrir nos cœurs pour qu'ils deviennent des temples vivants, hein, où Dieu sera glorifié, où il sera adoré en esprit, en vérité. Donc il faut offrir, vous voyez, on va vous mettre dans une démarche d'offrande, que nos cœurs soient des maisons de prière où Dieu soit glorifié. Et osons croire cette parole que moi j'avais reçue dans une retraite, ma première retraite de prière avec un jésuite, une école de prière qui durait 10 jours. Moi je ne priais pas plus de 10 minutes par jour. Et on arrive, on nous dit, ben, vous allez avoir 4 heures de prière par jour. Oh là là, mon Dieu, comment vais-je faire? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Avec la grâce de Dieu, on a tenu et on en redemandait. Alors voilà la parole que j'avais reçue dans cette première école de prière. Considère maintenant que Dieu t'a choisi pour lui bâtir une maison pour sanctuaire, sois ferme et agis. Et il parlait là, dans ce chronique, c'est au chapitre 20, verset 10, vous pourrez retrouver cette citation. Il s'agissait de la construction du temple, hein, avec Salomon. Mais derrière cette parole, le Seigneur me disait, il s'agissait du sanctuaire de mon âme. Voilà. Et en fait, c'est considère maintenant que le Seigneur t'a choisi pour lui bâtir une maison pour sanctuaire. C'est, voilà, mon âme peut devenir un sanctuaire pour Dieu. Voilà, et j'avais à le construire chaque jour, en vivant une union avec lui, étroite, dans un abandon et une confiance absolue, totale. Et la suite de la parole, c'est celle-ci. Sois ferme et courageux, donc ça veut dire que ça va nous demander une certaine détermination, hein, une certaine volonté. On va mettre toute notre énergie à cela. Hein. Ça ne va pas se faire comme ça, de manière zen. Non, ce n'est pas tout à fait ça. Sois ferme et courageux. Agis sans crainte ni tremblement, car le Seigneur, mon Dieu, est avec toi. Il ne te laissera pas sans force et sans soutien avant que tu n'aies achevé tout le travail à accomplir pour la maison du Seigneur. Donc le Seigneur s'engage et il nous dit qu'il va être avec nous et qu'il ne va pas nous laisser sans force et sans soutien. Vous savez, cette vertu de force, c'est ça qu'il va falloir exercer, hein, la vertu de force. Dieu va donner son don de force, mais nous avons à exercer la vertu de force pour tenir justement pour ces fameux temps de prière qui sont si compliqués à prendre pour dans des vies stressantes comme on en vit. Voilà. Alors, je vous invite, d'ailleurs, je vous indiquerai des livres demain. La prière, bien sûr, va avoir une très, très grande fécondité pour le monde, mais dans nos vies. On y reviendra de différentes manières, mais je voudrais déjà vous dire que le Seigneur va nous accompagner dans ce chemin et il nous conduira jusqu'au bout de la sainteté. Il ne faut pas avoir peur, c'est lui qui va nous y conduire, si on lui demande, si on en a le désir. Et je prends une citation du Père Marie-Eugène. Alors on vous distribuera à la fin de chaque enseignement, pas mal d'enseignements, une feuille où il y aura ces citations. Hein. Donc si vous n'avez pas le temps de tout noter, ne vous inquiétez pas. L'union à Dieu, c'est l'activité la plus haute que nous ayons à mener, la plus efficace, la meilleure à tout point de vue, et dans laquelle nous trouvons tout, et pour le présent, et pour notre apostolat. Ça, c'est le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus, dont nous parlera parmi nous. Donc, moi, au début de mon cheminement spirituel, j'ai été accompagnée par un prêtre, et qui m'a écrit une lettre qui a été pour moi, qui a créé en moi une détermination par rapport à la prière. Alors, je vous livre ça, parce que cette lettre m'a beaucoup touchée. Nous devons être persuadés qu'il n'y a rien de plus important pour nous et pour le royaume de Dieu que notre progrès dans l'oraison. Une seule âme unie à Dieu rend plus gloire à Dieu qu'une foule d'âmes, croyantes certes, mais qui piétinent dans les voies de l'union à Dieu. Une seule âme qui se laisse conduire dans les voies de la contemplation est plus missionnaire que beaucoup d'âmes activistes. Moi, ça m'a fait un coup. Ça faisait 4 ans que j'avais reçu, je dirais, une effusion d'esprit très forte à Paris Monial, mais je repartais dans un activisme à tout craint. Alors un activiste qui était moins dirigé vers ma personne, qui était pour rendre service, pour faire des belles choses et tout ça, mais je grignotais, mon temps était toujours grignoté, et je donnais de moins en moins de temps à la prière, et là, à travers cette parole, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu cherches, hein? Une seule âme unie à Dieu rend plus gloire à Dieu qu'une foule d'âmes, croyantes certes, mais qui piétinent dans les voies de l'union à Dieu. Une seule âme qui se laisse conduire dans les voies de la contemplation est plus missionnaire que beaucoup d'âmes activistes. Alors je ne savais pas du tout comment aller se profiler après cette mission. Voilà. Mais vous voyez, le Seigneur pour chacun a des missions différentes. Mais il nous dit, si tu veux être missionnaire, tu veux porter du fruit là où tu es, eh bien donne du temps à la prière, à l'oraison. Moi je t'amènerai sur les voies de la contemplation et ce sera mon fruit à moi et pas le tien. Voilà. Donc, voilà, à partir de là, ça m'a fait une telle impression que j'ai dit, ça y est, je remets en place un long temps de prière tous les jours. Je vous en reparlerai. Et j'ai compris que c'était la priorité dans ma vie, priorité des priorités, et je ne le regrette absolument pas. Alors, je m'appuie maintenant sur Pierre Goursa, qui est le fondateur de la communauté de l'Emmanuel, et qui nous enseignait sur l'oraison aussi, sur la prière. Et il disait, il nous parlait toujours de ce feu de l'amour, hein. Je pense que le Seigneur avait fait vivre des choses assez fortes, et qu'il fallait le recevoir continuellement. Il disait, la première condition pour qu'il continue de brûler dans les cœurs, c'est la prière. Alors, je le cite, depuis les transformations opéraient, alors c'était, il parlait des fusions d'esprit qu'il avait reçues très fortes, j'ai un besoin physique de la prière d'oraison, sinon je m'asphyxie et je deviens triste. Dès que je m'y remets, la joie, la paix, et la lumière reviennent. Mais je vois maintenant que ce n'est plus un temps d'oraison, c'est continuellement que je devrais rester avec Jésus. Nous devons prier pour que la grâce de Dieu nous imbibe. Vous voyez, on disait que l'on prenne, nous imbibe, nous prenne, nous transforme. Sinon, nous restons à la superficie de nous-mêmes. Et on est très mal à la superficie. Parce qu'on est ballotté par les vents de ce monde. Et ce n'est pas très gai. Et donc, il faut pouvoir prendre l'habitude de plonger pour être en contact avec Dieu. Et il n'hésitait pas à affirmer, sinon, on est en danger de mort. Carrément. Si on ne prie pas, on est en danger de mort. Alors moi, je suis frappée de toutes ces personnes très généreuses de tempérament, toutes données dans leur église, qui sont à tous les postes, avec tes chaises, machin, c'est là. Bon. Et puis tout à coup, on les voit s'effondrer, faire un burn-out. Alors, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Puis ça ne donne pas envie du tout de faire des activités pour sa paroisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est évident, évident qu'il manquait quelque chose, il manquait un ressourcement à ces personnes. Profond, profond. S'il n'y a pas ce ressourcement profond et une petite prière superficielle, ça ne va pas aider la personne et forcément, elle va buter contre ses limites, elle va faire sa volonté propre dans ses actions et ça va l'épuiser. Parce qu'on a des limites, figurez-vous. Hein, et ces limites, il faut les reconnaître et les accepter. Et donc, voilà. On pense à Mère Teresa, par exemple. Est-ce qu'elle a fait un burn-out? Hein, elle n'a jamais fait de burn-out. Comment a-t-elle pu tenir? Comment a-t-elle pu tenir vraiment du matin au soir? Elle était au chevet de tous ces mourants, et tous ces malades. Eh bien, à un moment donné, elle a vu que ça devenait limite et qu'effectivement, elle pouvait craquer. Elle a dit, il faut que je me lève une heure plus tôt. Voilà. Elle a rajouté du temps de prière. Elle prenait 2 heures d'oraison, 4 heures du matin à 6 heures. Et à 6 heures, ils avaient la messe, quelque chose comme ça. Voilà. Donc si on sait se ressourcer et si on va chercher dans ces sources profondes, ce contact avec Dieu vraiment, vraiment, on est renouvelé dans notre énergie, on reçoit voilà, toute la force pour agir. Et puis surtout, on va agir de manière équilibrée, harmonieuse, comme le Seigneur le veut et pas comme notre volonté nous pousse. Hein. Nous, on est toujours là, il faut tout faire rapidement, on est impatient. Le péché du péché, c'est l'impatience. Hein. Voilà, et bien même dans la vie spirituelle, vous voyez, il faut rester calme et puis donner du temps à Dieu. Et à ce moment-là, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Et notre frère Pierre commentait ce texte, cette parole de Saint Jean. Moi, j'aime beaucoup ce « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Parce que là, c'est magnifique, c'est radical, on ne peut rien faire. Alors, on n'a pas à être inquiet. On dit qu'on ne peut rien faire. Il faut donc tout demander au Seigneur. Mais ça, c'est magnifique. C'est vraiment ça. Hein. Mais quelle habitude. Il faut accepter de lâcher notre liberté, notre indépendance pour demander tout à Dieu. Il nous donnera tout. Il a toute la puissance d'amour pour tout réaliser dans nos vies. On lui demande si peu de choses. Au contraire, si vous n'accueillez pas des réserves de charité, d'amour dans la prière, quand vous aurez une action à faire, vous sombrerez dans l'activisme. Et voilà ce qui nous guette. La prière est donc véritablement un engagement d'amour. Elle est avec l'adoration, le fondement et la clé de voûte de toute notre vie. Alors, combien de temps tu me laisses? On a commencé à l'écart, j'ai encore 5 minutes. Alors, peut-être, on peut faire attention parce qu'il y a aujourd'hui 2 tentations qui nous guettent dans la vie spirituelle. C'est de croire que nous, avec des méthodes, parce qu'on nous propose énormément de choses, même pour la prière, il nous est proposé des tas de méthodes aujourd'hui, et croire que c'est par ces méthodes, par des méthodes, que nous pourrons nous sauver par nous-mêmes. Voilà. Accepter que quelqu'un d'autre, que le Christ, puisse nous sauver. Voilà la tentation de notre époque. C'est une hérésie qui est en train de s'infiltrer partout, et que dénonce le pape François. Le pape François disait ceci. Je crois que c'est la joie de l'évangile. Dans au numéro 35, je voudrais attirer l'attention sur 2 falsifications de la sainteté. Vous voyez, on peut vouloir être saint et prendre des mauvaises voies qui pourraient nous faire dévier du chemin, le gnosticisme et le pélagianisme. Ce sont 2 hérésies apparues au cours des premiers siècles et qui sont encore d'une préoccupante actualité. Tiens, tiens, alors il explique. Même aujourd'hui, les cœurs de nombreux chrétiens, peut-être sans qu'ils s'en rendent compte, se laissent séduire par ces propositions trompeuses. En elles s'exprime un immanentisme anthropocentrique déguisé en vérité catholique. Voyons ces deux formes de sécurité doctrinale ou disciplinaire qui donnent lieu à un élitisme narcissique et autoritaire. C'est-à-dire que, voilà, il l'explique, où au lieu d'évangéliser, on analyse, on classifie les autres, et au lieu de faciliter l'accès à la grâce, les énergies s'usent dans le contrôle. Dans les deux cas, ni Jésus-Christ ni les autres n'intéressent vraiment. Bon, j'y reviendrai peut-être. Donc, il faut vraiment faire attention. Voilà, il y a ça. Et puis, une autre tentation peut-être, c'est aussi de se croire arrivé. Alors, quand on a fait déjà pas mal d'années, pas mal de retraites, pas mal de sessions à droite à gauche, on se croit arrivé, on se dit, bon, allez, maintenant, on est cool, on s'arrête un peu, ça va être... Eh ben, ça, il ne faut jamais s'arrêter. Parce que dans la vie spirituelle, c'est soit on avance, soit on recule. Il n'y a pas de stagnation. On ne peut pas rester sur un palier. Il faut tout le temps avancer. Et bon, au début de la conversion, c'est sûr, on a du zèle et tout ça. Et puis, au fil des années, on va se le relâcher. Et puis, on se met dans un petit confort spirituel sympathique. On voit qu'on a un petit succès, qu'on fait des œuvres d'évangélisation qui marchent, etc. Et voilà. Et on peut, là, vraiment, il faut être très attentif parce que la déconversion nous guette toujours. Hein. Et donc, la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est toujours, toujours la dynamique, la dynamique, la dynamique. Voilà, on se lève le matin jusqu'au moment où on sera au ciel. Après, ça sera autre chose, une autre forme de dynamique. Je crois qu'il y aura une grande intensité de vie. Mais voilà, là ici, il nous est vraiment demandé, nous, de coopérer et de faire un effort pour être dans cette dynamique, avoir toujours envie de chercher, de lire, de découvrir. Il nous est demandé ça, vraiment. Ne jamais se satisfaire des connaissances qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Il y a tant et tant de choses à découvrir dans la vie spirituelle. On n'en a jamais fini. Voilà. Voilà, je me dis, les saints, qu'est-ce qu'ils ont fait, hein, au fur et à mesure que l'âge passe, les saints... Ils se sont exercés pendant des années, justement, aux vertus, aux différentes vertus, entre autres la vertu de force. Voilà. Et la récompense, eh bien, Dieu leur a insufflé des dons vraiment extraordinaires. Qui, voilà, ils ont été pénétrés de la force même de Dieu. Je ne vais pas arrêter. Ça ne fait rien. Alors, moi, je voulais vous dire que l'union à Dieu, vraiment, va vous rendre missionnaire. Il ne faut pas aller chercher ailleurs votre fécondité et les fruits dans votre vie. Le Seigneur veut nous faire porter du fruit. Voilà, il veut que chacun, nous puissions porter des fruits toute l'année. Hein, et que nous soyons des arbres généreux avec des feuilles qui vont guérir, avec des fruits qui vont voilà, nous réjouir, etc. Voilà. Le Seigneur veut vraiment nous faire porter ses fruits. Et ce n'est pas un repli intimiste que de prendre ce temps. Ce n'est pas pour nous replier dans un égoïsme anthropocentrique. Là. Pas du tout. C'est vraiment pour nous ouvrir à un amour universel. Et Thérèse de l'Enfant Jésus l'avait bien senti. Elle disait « Attirez-moi ». Elle avait observé dans le Cantique des Cantiques, une des premières phrases du Cantique des Cantiques, « Attirez-moi à vous ». Et nous courrons à l'odeur de vos parfums. Alors elle se dit, mais comment ça se fait? On passe d'un singulier à un pluriel. Attirez-moi. Alors elle demande à Dieu, enfin, la bien-aimée du cantique dit, attirez-moi et nous courrons. Alors qui? Elle se demande, qui c'est ce nous? Eh bien ce nous, ce sont toutes les personnes que nous rencontrons, tous les gens que nous portons, tous les gens à qui nous transmettons petit à petit cette découverte que nous avons fait de cet amour de Dieu. Voilà. Et elle dit, il suffit de se laisser attirer soi-même par sa beauté divine, par son regard plein d'amour, par toute la tendresse qu'on respire de lui quand on lit l'Évangile, pour que d'autres âmes se mettent automatiquement à courir vers lui. Et elle dit, ça se fait sans contrainte, sans effort. De même qu'un torrent se jetant avec impétuosité dans l'océan entraîne après lui tout ce qu'il a rencontré sur son passage, de même au mont Jésus, l'âme qui se plonge dans l'océan sans rivage de votre amour, attire avec elle tous les trésors qu'elle possède.
Alors, puisque nous avons fondé notre enseignement de ces deux jours sur les saints du Carmel principalement, je voudrais vous présenter rapidement celui qui en est celui qui en est l'origine, d'une certaine manière. Dans les ordres religieux, il y a un fondateur bien déterminé, Et dans le Carmel, il n'y en a pas. En fait, le Carmel se rattache à un homme qui a profondément marqué Israël et qui est le prophète Élie. Et alors, c'est cette figure-là vers laquelle il faut aller pour comprendre le charisme que porte le Carmel. Et il intervient, Élie, au 9e siècle à peu près, 9e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous connaissez l'histoire, David, 12e à peu près, pardon, 10e, Moïse, 12e siècle, David, 10 siècles avant Jésus-Christ, Salomon. Et puis, avec Salomon qui a désobéi finalement au Seigneur, le royaume se divise en deux. Il y a le royaume du Nord, Samarie, et puis le royaume avec Jérusalem, c'est le royaume de Juda. Et le royaume de Samarie, c'est un royaume qui, vous rappelez l'épisode de la Samaritaine, et toi, qui es un juif, tu me parles en moi une Samaritaine, parce que les juifs ne parlaient pas aux Samaritains qui étaient des héritiers. Là, Samarie va devenir un lieu où il va y avoir la notion du Dieu unique, va petit à petit s'effilocher, va disparaître. Or, le cœur d'Israël, c'est la foi au Dieu unique, c'est la révélation du Dieu unique. Et Juda, avec Jérusalem, va conserver cette révélation initiale, hein, pour rappeler l'épisode des puissants ardents, et le royaume de Juda, lui, va petit à petit trahir. Et Élie arrive au 9e siècle, il y a encore quelque espérance à ce que le peuple de Dieu garde la foi des pères, et Israël et Élie se lèvent. Et ils se lèvent comme une torche, nous dit le livre. Élie se leva comme un feu et sa parole brûlait comme une torche. Le Siracide, chapitre 48, verset 1. Élie se leva comme un feu et sa parole brûlait comme une torche. Voilà qui le définit bien. Donc il va essayer précisément d'être celui qui va ramener le peuple d'Israël à la foi au Dieu unique, au sens de Dieu. Celui qui va donner le sens de la transcendance de Dieu. Et il a tellement marqué Israël que vous savez qu'à la transfiguration, il y a deux personnes, il y a Moïse et puis il y a Élie. Hein? Moïse la loi et puis Élie qui représente les prophètes. Élie donc qui a profondément marqué toute la tradition d'Israël. Et alors Élie se caractérise d'une certaine manière par sa devise, je vous la donne. Devise magnifique, il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens. Ça, c'est le cri d'une certaine manière de Moïse. Il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. Et la deuxième partie de sa devise, je brûle d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth. Je brûle d'un zèle jaloux. Très important. C'est l'amour qui fait susciter la jalousie. Hein? Il est jaloux que son Dieu soit adoré, soit reconnu comme le Dieu unique. Parce qu'il en a fait la rencontre. Il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. Et c'est tout ça que nous sommes appelés, que le Carmel apporte à l'Église et que nous sommes appelés à vivre. Voyez, nous tenir devant le Seigneur pour faire l'expérience qu'il est un Dieu vivant. Et que nous tenir devant lui, c'est notre joie, c'est notre force, on trouve assurance dans le fait d'être en sa présence. Parce que mystérieusement, il y a quelque chose qui se passe. Mystérieusement, Dieu se donne, Dieu se communique à celui qui se tient devant lui. Alors pour ça, pour que Élie soit comme une torche, pour que Élie ait cette expérience si forte de Dieu, qu'il va pouvoir entraîner tout son peuple derrière lui, au moins pendant un temps, eh bien Dieu va le former. Dieu va le former et va l'envoyer dans le désert. Parce que le désert est très important dans la mesure où il n'y a rien. Et Saint Jean de la Croix, qui est un vrai fils d'Élie, va insister pour qu'il n'y ait rien. Il y a cinq fois, il ira vers la montagne du Carmel, il faut y aller par un chemin direct, c'est le chemin du rien. Non pas parce qu'on recherche rien, c'est parce qu'on recherche tout, on recherche lui, le Seigneur. Et pour qu'on le trouve lui, eh bien, il ne faut être attaché à rien. Et la vie spirituelle va être ce détachement pour mieux aimer. Vous voyez, pour le connaître lui. Et Saint Jean de la Croix est souvent perçu comme quelqu'un d'austère. En fait, il faut y voir en fait le chantre de l'amour. C'est parce qu'il aime profondément son Seigneur que du coup, il va passer par le chemin du rien. Mais un chemin du rien qui nous détache pour nous combler, afin que nous puissions être comblés. Et c'est ça l'avantage du désert. Et dans le désert, Dieu va le former. Il va le former aussi à la dépendance, à dépendre que de Dieu. Et vous savez que c'est lui qui va annoncer à Israël que la pluie ne tombera plus pendant 3 ans sur Israël. Pourquoi ? Parce que Israël s'étant écarté de Dieu, ben le fruit de cela, c'est la mort, forcément. Si vous vous écartez de la vie, eh bien vous allez vers la mort. Et la sécheresse physique signifiait la mort spirituelle qui était en train de vivre le peuple d'Israël, les tribus du Nord. Et donc, Élie va se retrouver dans une situation de sécheresse totale où il va apprendre la dépendance à Dieu qui va le maintenir en vie d'une manière non prévisible pour lui. Alors vous connaissez le passage où Dieu l'envoie au Kérite, où il y a un petit cours d'eau encore malgré la sécheresse, et puis il va être nourri par des corbeaux qui vont lui apporter la nourriture quotidiennement. Les corbeaux, c'est intéressant à noter, ce sont des animaux impurs. Donc pour que l'homme ne s'enferme pas dans la loi, pensant qu'en s'enfermant dans la loi, eh bien il y trouve sa sécurité. En fait, il s'agit pour nous de nous appuyer sur aucune sécurité. Dieu seul suffit, dit Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit. Et pour ça, il faut apprendre à dépendre radicalement de Dieu. Alors il va être nourri par ces animaux qui jour après jour viennent, mais lui n'en sait rien. Et vous voyez, cette dépendance de la nourriture, cette dépendance de la nourriture qui est quelque chose de vital, eh bien il va la recevoir directement de Dieu pour que, façonné par cette expérience-là, il apprenne à ne dépendre que de Dieu. Et puis le torrent va s'assécher. Si vous lisez ça dans le livre des rois, hein, qui nous parle du cycle d'Élie, au chapitre 17. Et puis Dieu va l'envoyer dans le territoire de Sidon. Sidon, aujourd'hui, c'est au Liban. C'est-à-dire, c'est en dehors d'Israël. C'est le pays impie. Et c'est de là que vient cette femme qui a épousé Akab, le roi du nord, de la Samarie, et qui a amené avec elle tous ces Baals, tous les dieux qui vont déstabiliser les gens de la tribu du Nord, et ils vont devenir, ces Baals vont devenir des rivaux de Yahvé. Eh bien Dieu l'envoie là-bas, en territoire impie, et il va rencontrer une veuve, la veuve de Sarepta, qui va, avec son enfant, va se nourrir de la dernière mesure de farine qu'il reste, un peu d'eau, c'est lui qui va mourir. Et alors le prophète lui dit, non, fais-moi une galette, et tu verras, ton vase d'huile ne faiblira pas, et ta farine, voilà. Et alors, petit à petit, de fait, lui apprend, pendant un temps indéterminé, à vivre simplement de ce qu'une païenne lui donne. Lui qui est le prophète du Dieu unique. Et Dieu l'envoie, le façonne d'une certaine manière, à être complètement dépendant d'une manière inattendue. Et il devient le prophète de Dieu qui n'est mené que par la volonté de Dieu. Un être absolument dépendant. Et c'est dans cette solitude-là qu'il comprend que Dieu devient l'unique. Et que Dieu va pouvoir se révéler à lui. Alors il y a ce fameux épisode où 3 siècles après Moïse, Élie va être envoyé à l'Horeb, la montagne de Dieu, où Dieu s'est révélé à Moïse, et Dieu va se révéler d'une manière différente, spécifique, qui va permettre à Israël d'approfondir sa relation personnelle avec Dieu. Alors vous connaissez ce très beau passage de la révélation de Dieu à l'Horeb, je vous le lis parce que, même si vous le connaissez, c'est toujours un beau passage. après avoir marché 40 jours et 40 nuits dans le désert, hein, avec comme nourriture que celle que l'ange lui avait donnée, eh bien Élie entra, il se leva, mangea et but, puis soutenu par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Là où 3 siècles auparavant, Moïse avait eu la révélation même de Dieu. Là, il entra dans la grotte, il y resta pour la nuit. Et voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. » Alors il lui fut dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé. Mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais Yahvé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le murmure d'une brise légère. Et là, ils traduisent, après le feu, le son d'un silence subtil. Et dès qu'Élie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors, une voix lui parvint qui dit « Que fais-tu ici, Élie ?» Alors, voyez comment Dieu, depuis Moïse, a éduqué son peuple pour le trouver. Vous rappelez l'épisode de la révélation à l'Horeb, c'est-à-dire que c'est un Dieu qui se révèle dans le tonnerre, dans la fumée, dans le feu, et au point que les Israélites qui sont en bas sont terrifiés, et seul Moïse peut accéder à l'Horeb. Et leur sensibilité, ou leur foi grossière vis-à-vis du Dieu unique, avait besoin de ces phénomènes un peu extraordinaires. Et puis Dieu, vous connaissez bien l'histoire sainte, petit à petit purifie son peuple, et à travers Élie, révèle que Dieu n'est plus, ne se manifeste plus simplement et de manière privilégiée, plus profonde, dans le tremblement de terre, dans le feu, etc., dans l'ouragan, mais il se révèle dans le silence, dans le son d'un silence subtil. Et c'est cette vie dans le désert qui a fait découvrir petit à petit à Élie que Dieu parlait dans le silence de l'âme. Et regardez ce que nous dit Saint Jean de la Croix. C'est la maxime 147. Le Père éternel a dit une seule parole qui est son Fils. Il l'a dit éternellement dans un éternel silence. Et c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Le Père éternel a dit une seule parole qui est son Fils. Il l'a dit éternellement dans un éternel silence. Et c'est dans le silence de l'âme qu'elle se fait entendre. Alors, quelle place a le silence dans ma vie? C'est ça la question que Élie nous pose, que les saints du Carmel nous posent. Est-ce que je veux connaître Dieu? Est-ce que je veux le rencontrer? Eh bien, il dit une seule parole qui est son Fils, Jésus, on verra demain, qu'il a envoyé du Père, en qui le Père s'est entièrement donné, à qui le Père s'est entièrement donné, afin que le Fils est l'égal du Père. Il nous envoie son Fils, et en lui, nous connaissons Dieu. Et alors, il s'agit d'être ceux qui écoutent, qui font silence, et c'est dans le silence de l'âme, alors que la parole du Père, qu'est le Fils, va se faire entendre. Et il n'y a pas d'autre chemin que cet apprentissage du désert dans nos vies, qui permet un tête-à-tête, un cœur-à-cœur, un ami qui parle à un ami, Et en dehors de cela, il n'y a aucune rencontre profonde de Dieu qui ne peut se faire. Ce n'est pas la rencontre simplement avec le silence et le vide. Le silence étant la condition pour la rencontre avec celui qui est au cœur de ce silence et qui est le Verbe de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Christ. Que rien ne vienne troubler le profond silence qui doit régner dans l'âme, afin qu'elle puisse entendre la parole que, dans la solitude, Dieu va adresser à son cœur. C'est pour ça qu'on va vous dire combien il est important de mettre ce silence dans vos vies, selon votre vocation propre, qui va vous permettre ensuite, comme on le voit chez certains saints, dans l'activité même, parfois débordante, que vous pouvez avoir, en fait garder cette part de silence que rien ne viendra troubler. Il ne s'agit pas de démissionner de nos responsabilités professionnelles, parentales, familiales, mais il s'agit au cœur même de ces responsabilités, de ces activités, s'être assez éduqué à la rencontre silencieuse avec le Seigneur pour que nous puissions vivre ce que nous avons à vivre, mais avec sa présence. Et alors ça s'apprend. Ça s'apprend de faire silence et de garder le silence, une part de silence dans notre vie. Et alors, puisque le Seigneur va se révéler dans ce silence, dans ce tête-à-tête, alors va s'allumer en nous un feu. Je brûle d'un zèle jaloux pour le Seigneur Sabaoth. Et on voit que le contemplatif qu'est Élie, il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. Vous voyez là toute la charge qu'il y a dans cette maxime d'une certaine manière. Il est vivant, le Seigneur devant qui je me tiens. Le temps que je prends avec lui n'est pas un temps vide. C'est un temps où il se donne, lui qui est le vivant. C'est loin d'être un temps vide et inutile, c'est un temps plein qui permet au Seigneur de se communiquer à mon âme. Et du coup, je vais brûler d'un zèle jaloux pour lui, désirant ne pas garder pour moi cette expérience de vie que Dieu donne, me donne pour les autres. Parce que en Dieu, il y a toujours la dimension personnelle et la dimension communautaire. Dieu est unique et il est trine. C'est-à-dire en lui-même, il est échange d'amour. On verra ça demain. Et donc l'expérience réelle de Dieu est toujours une expérience intime qui a une dimension communautaire, inévitablement. Alors sa vocation, puisqu'il est plein de ce Dieu qui s'est donné à lui, lui qui a appris à être dépendant complètement de Dieu, d'une manière vitale, il n'avait plus rien à boire ni à manger. Eh bien, sa vocation propre, ça va être de donner à Israël le vrai sens de Dieu. D'autres prophètes surgiront dans l'histoire d'Israël pour donner le sens de la justice, par exemple. Vous avez Amos, qui va être violent dans ses reproches contre le luxe des riches qui exploitent les plus pauvres. Il va condamner la corruption, les injustices sociales qu'il y avait nombreuses. Donc Dieu fait surgir des prophètes qui le caractérisent selon tel ou tel aspect. Et Élie, sa vocation propre, ça va être donné le sens de la transcendance de Dieu. Et alors vous connaissez ce fameux épisode du sacrifice au chapitre 18, c'est le sacrifice du Carmel. Élie se désole de voir son peuple se paganiser, courir après les Baals, Et il va donc inviter, il va lancer un défi à tous ces prêtres de Baal, et il rassemble tout le peuple, vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, je vous la synthétise très vite pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Il les invite, les 400 prophètes de Baal, il les invite à venir, et puis à intercéder pour que Dieu, que le feu du ciel tombe sur l'holocauste qu'on met en place. Alors on dépaisse des taureaux, et puis on prie, alors Élie invite à prier les dieux de Baal pour que le feu descende et consume ces holocaustes. Et toute la journée, eh bien, les prêtres de Baal se mettent à intercéder, à supplier, à crier vers le Seigneur, se taillade, etc. Et puis à la fin du soir, à la fin de la journée, eh bien, c'est Élie qui va à son tour prier et le feu du ciel va tomber. Et alors le peuple de Dieu, à ce moment-là, s'écrie parce que c'était pour lui évidemment que cela se faisait. Et alors, vous invoquerez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de Yahvé, le Dieu qui répondra par le feu, c'est lui qui est Dieu. Tout le peuple répondit, c'est bien. Et Élie dit au prophète de Baal, bien, choisissez un taureau et commencez. Et puis alors Élie dit à tout le peuple, approchez-vous de moi. Et tout le peuple s'approcha de lui. Il répara l'autel de Yahvé qui avait été démoli. Il prit 12 pierres selon le nombre des tribus des fils de Jacob à qui Dieu s'était adressé en disant, ton nom sera Israël. Et il construisit un autel au nom de Yahvé. Puis il dit, emplissez 4 jarres d'eau, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, doublez, et ils doublèrent. Il dit, triplez, et ils triplèrent. L'eau se répandit autour de l'autel, et même le canal fut rempli d'eau. Et à l'heure où l'on présente l'offrande, Élie le prophète s'approcha et dit, Yahvé, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, réponds-moi. Yahvé, réponds-moi pour que ce peuple sache que c'est toi, Yahvé, qui es Dieu et qui convertis leur cœur. Et le feu de Yahvé tomba et dévora l'holocauste, et le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le canal. Tout le peuple le vit. Les gens tombèrent la face contre terre et dirent, c'est Yahvé qui est Dieu, c'est Yahvé qui est Dieu. Voilà, ce peuple qui clochait qui adorait les Baals et puis qui adorait Yahvé, a été amené à choisir. Et c'est la force, vous voyez, du prophète qui était seul, du prophète qui était rempli de la force du Seigneur, qui a pu ainsi retourner tout un peuple et le ramener au Seigneur. Alors pour nous, c'est une leçon, cela, parce que cette expérience de Dieu que nous faisons a la capacité à toucher le cœur de ceux qui ne le connaissent pas. Il y a une force qui vient en vous et qui vous rend capable de témoigner du Dieu vivant. Et c'est parce que vous serez laissé remplir de lui que vous deviendrez les missionnaires, les prophètes dont le monde a besoin. Parce que vous aurez cette expérience qu'il est vivant, le Seigneur devant qui vous vous tenez, et il y aura une force, une parole, une force mystérieuse qui touchera le cœur de ceux vers qui vous serez envoyés pour témoigner. Alors, ce n'est pas tout l'histoire d'Élie. Il y a aussi, on parlait de burn-out tout à l'heure, et bien lui, il en a connu un grand de burn-out. Parce qu'il fallait qu'il comprenne qu'il était dans la main de Dieu. Et lorsqu'il a supprimé, parce qu'il a égorgé, c'était les habitudes de l'époque, il a égorgé tous les prophètes de Baal. Et il s'agit pour nous donc de, vous voyez, de garder en nous cette violence en la tournant, évidemment pas contre l'autre, mais en la mettant au service du Seigneur. Cette capacité, cette force que nous pouvons avoir, que nous donne la force de Dieu, il s'agit de l'utiliser pour, évidemment, le service des autres, et non pas pour eux. Mais vous voyez que le Seigneur donne cette force-là, et nous rend du coup profondément missionnaires. Mais lui, Élie, on le voit bien en analysant le texte un peu, d'une manière un peu précise, que Élie finalement aussi agit pas simplement sur l'ordre de Dieu, il agit aussi par initiative personnelle, et Dieu l'accompagne parce que c'est son prophète. Mais il a lui-même des initiatives qui ne viennent pas directement du Seigneur. Et donc il faut que cette part humaine
eh bien, cède. Et alors, on voit, après avoir supprimé tous les prophètes, il y a Jézabel, la femme du roi Akaz, qui avait fait venir ses Baals. Elle dit, ce que tu as fait là, que je sois maudit, si demain soir, tu ne subis pas le même sort. Et on voit Élie qui s'effondre psychologiquement, qui a peur de cette femme, et qui fuit, qui a envie de mourir. Lui qui a réussi à ramener tout son peuple à la fois au Dieu unique, et voit qu'il tremble devant cette femme qui le menace de mourir. Et dans nos vies, il y a ce sens de la pauvreté aussi, cette exigence de la pauvreté. Et nous l'avons bien, c'est-à-dire que si nous appuyons sur nos propres forces simplement, nous sentons bien que nous ne pouvons pas. Et Dieu nous laisse sentir notre pauvreté pour que nous puissions nous appuyer petit à petit sur lui seul, que même notre fécondité apostolique, si je puis dire, que l'impact que vous aurez vis-à-vis des autres, eh bien, ne vous fasse pas penser que vous êtes la source de cette fécondité apostolique. Et donc, il ne faudra pas vous étonner que Dieu aussi nous fasse passer par le creuset pour que nous comprenions, en fait, que nous dépendons radicalement de lui. Voilà le prophète Élie, si vous voulez, pour retracer vite sa personnalité, qui a tellement marqué Israël, qu'il a marqué aussi la suite de l'Église, et que les ermites du Mont Carmel, eh bien, petit à petit, se sont reconnus dans cette figure-là. Et le Carmel aujourd'hui, avec les saints dont on vous a parlé, eh bien, ont reçu cet héritage, à la fois contemplatif, il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens, et puis apostolique, missionnaire aussi, je brûle d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth. Et en fait, c'est la vocation de tout baptiser d'une certaine manière, de se tenir devant Dieu, et aussi de l'annoncer à travers cette belle figure du prophète Élie. Nous avons là une manière d'accomplir notre vocation propre. Et donc demain, on creusera un peu qu'est-ce qui se passe dans ce dialogue mystérieux entre Dieu et nous.
Peut-être un petit mot juste sur le silence. Là, on a parlé tout à l'heure à la messe par rapport au silence. Quelques petites citations encore de Monseigneur Sarah sur la force du silence. Là, c'est pour vous motiver pour ces deux jours en silence. L'humanité doit rentrer dans une forme de résistance, dit-il à la page 48. Que deviendra notre monde s'il ne recherche pas des espaces de silence? Le repos intérieur et l'harmonie ne peuvent découler que du silence. Sans lui, la vie n'existe pas. Les plus grands mystères du monde naissent et se déploient dans le silence. Dans le ventre de la mère, l'enfant grandit en silence. Voilà. Le silence est plus important que toute œuvre humaine, car il exprime Dieu. La véritable révolution, je veux faire toutes sortes de révolutions, eh bien, elle vient du silence. Elle nous conduit vers Dieu et les autres pour nous mettre humblement et généreusement à leur service. Il est important de cultiver le silence pour être véritablement avec Dieu. Hélas, les puissances mondaines cherchent à façonner l'homme moderne et écartent méthodiquement le silence. Encore une, le silence nous pousse vers une terre inconnue qui est Dieu. Ça, c'est numéro 70. Et cette terre devient notre véritable patrie. Par le silence, nous retournons à notre origine céleste, où il n'y a que calme, paix, repos, contemplation, adoration silencieuse du visage radieux de Dieu. Voilà, si on regarde Marie aussi, on va peut-être la prier maintenant, mais la vie entière de la mère de Jésus est baignée dans ce silence. Les grandes œuvres de Dieu sont le fruit du silence. Dieu seul en est témoin, et avec lui ceux qui voient de l'intérieur, qui font silence et vivent de la présence du Verbe silencieux comme la Vierge Marie. Marie se fait disciple du Verbe. Elle écoute, elle adhère, elle se donne, elle se perd dans ses abîmes. Toutes les fibres de son être retentissent de cet appel. « Fais-moi entendre ta voix. » Cantique 2, 14. Marie donne audience au Verbe silencieux, sa chair peut alors devenir le berceau de l'éternelle parole. En elle, tout homme se voit appelé à la même destinée, il devient une demeure de Dieu, du Verbe silencieux, un temple du Verbe, la basilique du silence. J'arrête là, mais vous pouvez acheter le livre. On va peut-être prendre un petit temps juste de prière à Marie.